Vous avez vu en arrivant ici les fleurs magnifiques, vous les aviez peut-être vues dans la chapelle cette semaine ou même ici dimanche dernier. Je venais de célébrer les obsèques d'un jeune homme de 21 ans. Que tous ceux qui le connaissaient appelaient un ange. Il était beau, blond, souriant, charismatique, aérien, flottant. D'habitude, je n'aime pas beaucoup qu'on parle d'un ange pour un être humain, quel que soit son âge. Parce que les anges, théologiquement, ont une définition précise. Ce sont des créatures spirituelles, de purs esprits, des esprits invisibles qui n'ont pas de corps, par différence avec nous, qui sommes des créatures corporelles et temporelles, qui avons une histoire, qui avançons dans le temps. Tandis que l'ange entre au moment même de sa création, dans l'instant de sa création, il entre dans l'éternité. Il entre immédiatement au service de Dieu, avec lui, ou contre lui, c'est sa liberté. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus un ange, c'est un démon. Mais avec lui, avec le Seigneur à son service, les anges sont des êtres merveilleux, de douceur, d'attention. Et pour une fois, le terme convenait quand même à ce jeune homme dont tous témoignaient qu'il était très spécial, qu'il était vraiment unique. Parce que c'est une autre caractéristique des anges. Chaque ange constitue sa propre espèce. Il n'y en a pas deux pareils. Alors on peut se demander comment faire pour les reconnaître. Ils sont invisibles, il n'y en a pas deux pareils. Ici dans l'évangile, nous avons l'ange Gabriel, dont le nom signifie « Dieu est ma force », qui est envoyé par le Seigneur chez Marie à Nazareth. Et le récit dit qu'il est entré chez elle, qu'il l'a saluée, en des termes qui l'ont bouleversée. Et, à vrai dire, nous ne pouvons pas savoir ce qui l'a bouleversé. Est-ce que c'est la venue, la visite d'un ange, ou le titre, la parole, le titre qu'il lui a donné, comblé de grâce, pleine de grâce, disons-nous dans notre prière. Comblé de grâce, un titre dont aucune créature ne peut se prévaloir, parce que la plénitude, c'est l'exclusivité de Dieu, c'est même un nom de Dieu. En grec, cela se dit plérôme, c'est un terme qui se retrouve une quinzaine de reprises dans le Nouveau Testament, dont une des plus belles utilisations se trouve dans la lettre aux Éphésiens de saint Paul, qui dit « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ». C'est ça la grâce de notre baptême. « Que le Christ habite en nos cœurs par la foi ». Et il nous exhorte, justement, par notre baptême, rester enracinés dans l'amour, établis solidement dans l'amour. Alors vous serez capables de comprendre ensemble quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, l'immensité de l'amour de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, ce qui dépasse toute intelligence, l'amour du Christ. Et Paul conclut, vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu, dans son mystère. Ce qui dépasse toute connaissance et toute intelligence, l'amour du Christ. Et la question que nous pouvons nous poser, et qui permet de comprendre que Marie soit bouleversée, c'est que pouvait-elle savoir à ce moment-là de son existence de l'amour du Christ ? Marie croyait en Dieu. Mieux encore, Marie adorait Dieu. La preuve, c'est qu'elle ne répond pas à l'ange. Pourquoi ? Encore moins, pourquoi moi ? Vous savez, c'est une différence entre aimer et adorer. L'amour a besoin de connaître, l'amour a besoin de comprendre. Tandis que l'adoration, et c'est pour ça que nous disons que Dieu seul est digne d'adoration, l'adoration se contente de contempler, on se laisse porter dans l'adoration. Quand on aime, on est, on doit être à égalité. Quand on adore, on accueille, on reçoit. Et Marie avait suffisamment de foi pour ne pas dire au Seigneur « Pourquoi ?» Pour ne pas lui demander des comptes, elle demande donc comment cela va-t-il se faire, ajoutant cette phrase qui nous étonne toujours, « puisque je ne connais pas d'homme », phrase tout à fait paradoxale, alors qu'elle est promise en mariage. Et la plus grande part de la tradition de l'Église l'explique par le vœu que Marie avait fait. Si Joseph en était d'accord, de se consacrer entièrement au Seigneur. Il y a quelques jours, une de mes fiancées, vous comprenez, une fiancée que j'accompagne au mariage, est venue me voir, demander un rendez-vous, très embarrassée, parce qu'elle n'a pas envie d'avoir d'enfant. Elle compare avec ses amis, mais elle dit « Non, moi, je ne rêve pas d'être mère. » Et cette jeune femme honnête voulait savoir si ce manque de désir de maternité était conciliable avec un mariage religieux. Elle n'y est pas opposée. Elle dit « Elle n'est pas emballée. » Nous avons longuement discuté. Et j'ai reçu cette visite et cet entretien comme un signe sur cet évangile de l'Annonciation, à tel point que, après son départ, j'ai refait l'homélie que j'avais initialement prévue. Elle était pas mal au départ. J'avais prévu de vous proposer de méditer sur ce que Marie faisait quand l'ange est entré chez elle. C'est une bonne question. L'ange entre chez Marie à Nazareth, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Alors, pieusement, on va dire qu'elle était en train de prier. C'est parce que le plus souvent, on la représente ainsi, recueillie, les yeux baissés, tout en intériorité. Et puis, il faut dire que nous sommes très marqués par l'évangile de Marthe et Marie, même si ce n'est pas la même Marie, elle est représentée au pied du Seigneur, en train d'écouter sa parole, tandis que sa sœur s'active en cuisine. Alors, que faisait-elle? Est-ce qu'elle était en train de prier ou est-ce qu'elle était au contraire, comme Marthe, absorbée par les tâches du quotidien? Ce qui expliquerait d'ailleurs qu'elle était d'autant plus bouleversée en entendant la voix de l'ange, ne l'ayant pas vu venir et de toute façon ne le voyant pas. Rappelez-vous quand Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, juste avant sa passion, dit que son âme est bouleversée. Du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là, certains disaient que c'était un coup de tonnerre, mais d'autres disaient « C'est un ange qui a parlé. » Un ange peut se rendre visible, mais habituellement, l'apparition est intérieure. On entend une voix. Rappelez-vous Paul sur le chemin de Damas, quand une lumière venant du ciel l'a enveloppé de sa clarté, qu'il a été précipité à terre, il a entendu une voix. Et ses compagnons stupéfaits qui s'étaient arrêtés eux aussi, le texte dit, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Mes amis, nous entendrons tous un jour la voix du Seigneur. À certains, peut-être, cela est déjà arrivé. Mais pour la plus grande part, pour le plus grand nombre, elle viendra certainement contrecarrer nos projets, modifier nos plans, mais surtout, au plus profond, corriger et purifier notre idée de l'amour de Dieu. À quelques jours de Noël, alors que peut-être pour vous, le plus gros est déjà organisé, peut-être un peu moins cette année. Mais je vous invite à vous demander si vous voulez vivre justement ce Noël de façon différente. Quelle idée vous vous faites de l'amour de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il peut venir vous visiter? Qu'il peut venir bouleverser votre vie? Et est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Je ne suis pas un ange, je n'ai pas d'annonce à vous faire, mais prêtre du Christ, enfant amoureux de la Vierge Marie, je dois vous faire cette promesse. La promesse que l'amour de Dieu viendra vous visiter. »